Mais à l'avenir, ça va être de faire des poirées de terroir. C'est-à-dire qu'on a des vergers qui sont sur schiste, on a des vergers qui sont sur granit, on a des vergers sur argile, qu'on va développer, qui seront plantés l'hiver prochain. On a des vergers sur grès rose, à Erquy, et on a des vergers sur grave, à Paimpol. Donc ce sont des galets, en fait, hein, c'est des galets marins, hein, on est vraiment sur le trait de côte, et on plante les vergers sur les galets marins.
Ok, pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro !
Et vous avez bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.
Bénéfice de l'âge, donc Jean-François Courcou, poiriculteur à Plaintel.
Voilà, et puis bah, moi, Clément, 5e génération, productrice de poirées, puis je m'installe en fin d'année pour faire perdurer justement bah, cette histoire familiale. Voilà.
D'accord, 5 générations quand même.
5 générations, ouais.
Donc ça a commencé ouais. par.
Mon arrière-grand-père, Mathurin. Ensuite mon grand-père, mon père, moi-même. Et il y a eu un. Et puis Clément demain, il y a eu un maillon faible, on va dire. C'est la génération qui a précédé la mienne, qui a changé de type d'agriculture. On était dans les années 60-70. Fallait produire plus, fallait faire autre chose, fallait faire de l'élevage hors sol, etc. Et donc là, ça a été dramatique en Bretagne, pas uniquement sur mon exploitation, mais dramatique en Bretagne, parce que c'est à ce moment-là où tous les vergers ont disparu pour faire des grandes cultures intensives, remembrement, etc. Et on a perdu beaucoup de génétique. Et moi, sur ma ferme, donc, les poiriers ont été arrachés pour faire des grandes cultures. Et quand j'ai repris l'exploitation, je me suis intéressé à ce que faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et c'est là que j'ai vu toute l'histoire, tout le patrimoine qu'il y avait. Et il y avait quelques vieux arbres, comme on voit derrière là-bas. Il y en a un qui est juste derrière, la variété Fontaine. Là. Grand, un arbre magnifique, majestueux, et des fruits tous les ans, pas de fertilisation, pas de phyto, etc. Et, corne d'abondance, quoi. Vraiment des fruits magnifiques. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut à tout prix valoriser ce capital-là. Et puisqu'on avait un terroir, eh bien, le restaurer, le refaire, le rétablir. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai replanté la ferme en fait en poirier, avec la génétique locale du pays de Saint-Brieuc.
D'accord. Et du coup, ça veut dire que l'arrière-grand-père et le grand-père, est-ce qu'ils avaient laissé des traces ?
Alors oui. Alors j'ai
écrites, du coup ?
J'ai les cahiers de livraison de poirées, j'ai les cahiers de récolte, j'ai le matériel. J'ai gardé le matériel, là, c'est dans un bâtiment derrière. Je sortirai un jour où on fera un petit musée sur le poiret, mais j'ai effectivement tout le matériel. Et heureusement qu'on a gardé ça. J'ai des ouvrages aussi, hein, des ouvrages sur le poirier qui étaient restés dans la famille. Et puis surtout la génétique, puisque j'avais encore quelques vieilles variétés que j'ai regreffées. Quoi.
D'accord. Voilà. Donc, il existe bien du poirier en Bretagne.
Ah oui,
il y en a
tout
pas
à fait.
Ah
non, 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 non. Alors là-dessus, c'est très clair. D'ailleurs, on va le démontrer. Hein, dans les années qui viennent, on a commencé un travail, on va le continuer. Mais pour faire la petite histoire, le poirier est apparu très, très tôt en Bretagne, puisqu'on a une charte du cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon qui nous parle des vergers plantés de poirier en l'an 580. Donc on retrouve dans des chapelles, on a deux chapelles en Bretagne, non loin d'ici, où on trouve la Vierge à la poire. On a la Vierge qui tient l'enfant Jésus, elle tient une poire d'une autre main, et le petit Jésus qui tient une bouteille. Ben, c'est des choses marrantes, mais ça montre l'importance de cette économie de la poire à une certaine époque, donc pendant tout le Moyen-Âge en Bretagne. Quoi. Les deux boissons essentielles, c'était le poiret et la bière. Et chez nous, le pommier est arrivé très tardivement, hein, au XVIIe siècle. Il vient du sud-ouest. Hein, et en fait, il ne vient pas de Normandie, il vient du sud-ouest, le pommier en Bretagne. Donc XVIIe siècle, et il a remplacé petit à petit les poiriers parce que la culture est plus aisée. Hein, au bout de 4-5 ans, on a des pommes. En poirier, il faut une quinzaine d'années. La fermentation est beaucoup plus facile à mener, etc. On a une tradition connue cidricole, mais la tradition en poire est beaucoup plus méconnue et elle est beaucoup plus ancienne. Alors le travail qu'on fait actuellement, la semaine dernière, j'étais en train de faire du génotypage. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'INRA, qui nous demande de génotyper nos variétés de poires. Donc j'envoie des feuilles, donc je prélève des feuilles sur chacun de mes arbres, je les envoie à l'INRA, analyse génétique, et on reçoit un an après les codes PUNC de chaque allèle de chaque poirier. Et l'objectif, c'est de démontrer une gamme de variétés en Bretagne qui est inégalable ailleurs. On va avoir plus de 400 variétés génotypées dans les années qui viennent.
Mais c'est un travail de dingue.
Vous vous amusez à
vadrouiller autour de la Bretagne.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai recensé les variétés qui me restaient sur l'exploitation, puis ensuite chez les voisins, puisqu'on échangeait les greffes, etc. Donc j'ai pu récupérer des variétés qui n'étaient plus sur l'exploitation, mais toujours présentes chez les voisins. Et puis ensuite, je l'ai fait à l'échelle du canton, puis du département, et puis à l'échelle de la Bretagne. Et donc, on a fait un verger conservatoire. On a à peu près 300 variétés en conservatoire, de variétés de poires. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 15 ans qu'on le mène. Repérage des poiriers quand ils sont en fleurs en mars. On circule avec la voiture, tous les petits villages. On se dit, tiens, on note le code GPS, il y a un poirier à tel endroit, etc. Et puis, je reviens en cours d'été. Pour essayer de trouver le propriétaire et surtout de faire de l'ethnobotanique, c'est-à-dire rencontrer un ancien qui va me dire cette variété-là, on la mettait, c'était pour faire de l'alcool. Celle-ci, c'était pour faire du poiré. Celle-ci, c'était pour éclaircir le cidre, etc. Donc j'essaye de récolter le maximum d'informations, de motiver le propriétaire à le garder. Parce que ça, c'est difficile. La plupart du temps, ils me disent j'ai goûté les poires du vieux poirier de la maison que j'ai acheté l'année dernière. Et puis, les poires, c'est pas bon, c'est astringent, il ne doit pas être greffé. Et après, il part pour faire du feu, quoi. Il est coupé, etc. Et c'est là où il faut leur expliquer les choses, où c'est réellement un patrimoine. C'est pas une variété de poire à manger, c'est une variété de poire pour faire du poiré.
Là, on est dans la pépinière. Une question bête peut-être, mais que beaucoup ne savent peut-être pas. Pour replanter une variété de poire, est-ce qu'on juste on plante la graine et ça nous fait le même poirier ou il y a quelque chose de plus qu'il faut savoir ?
Alors, effectivement, ça va être un peu long. J'ai voulu refaire les vergers de poirier dans la même configuration qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire faire des poiriers haute tige. C'est beaucoup plus long, ça demande 5 ans de travail en pépinière. Et ça demande un double greffage. Alors on travaille sur des variétés de porte-greffe franc qui ont un système racinaire pivotant, relativement poussant. Alors j'ai deux origines plantées en verger. Le Pyrus pyraster, qui est le Pyrus endémique en Bretagne, qu'on trouve dans les Landes et autres. Et le poirier franc. On fait des semis. C'est-à-dire qu'on récupère des petites poires, c'est des poires minuscules, un peu plus grosses qu'une cerise, à peine plus grosses qu'une cerise. On récupère les pépins. Les levées de dormance sont très difficiles à obtenir, parce qu'on peut faire un semis et avoir aucune levée pendant la première année. Donc il faut stratifier les semences pendant un hiver, dans du sable humide, au froid, etc. On arrive à lever les dormances, à obtenir un jeune poirier qui va faire 10 cm au bout d'un an. On le repique en pépinière. Et ensuite, on va l'écussonner au mois d'août avec des variétés que j'ai recensées qui vont me faire la tige.
Alors, écussonner, pour ceux qui ne savent pas, c'est greffé en fait ?
C'est greffé, mais juste avec un bourgeon.
D'accord.
Et on greffe au pied, au ras du sol, à 20 cm du sol. Donc on pose ce bourgeon au mois d'août et il va passer tout l'hiver au stade dormant. Et au printemps suivant, on va couper au sécateur la plante au-dessus de l'écusson. Et cet écusson-là va donner une tige. Et comme on voit ici, voilà, ce sont des tiges de 2 ans. Ça va donner une tige comme celle-ci, très droite, très robuste. Alors, au niveau de la collecte, quand je collecte une variété sur un vénérable, sur un vieux poirier, je collecte la variété qui est greffée au-dessus, donc qui a un intérêt pour les fruits, pour le poiré, mais je collecte aussi la variété tronc. Donc je profite qu'il y a quelques démarrages comme ceci le long du tronc du vieux poirier, et je collecte et je note tout ça dans mon historique pour que je fasse la même composition. Parce qu'en variété tige, tu vois les rangs qu'il y a ici, il y a à peu près 10 variétés de tiges différentes. Donc il y a tout un conservatoire botanique à faire sur les variétés tiges, les variétés troncs. Et j'en découvre quasiment tous les ans.
Finalement, des variétés tiges qui vont être sélectionnées, c'est celles qui auront tendance à pousser finalement l'arbre vers le haut.
C'est ça.
Et à la verticale.
Et à la verticale. Et ensuite, je vais greffer à 2,10 m, 2,20 m, je vais greffer la variété fruitière pour laquelle je veux produire des poires. Quoi.
D'accord.
Alors, on a une différence énorme entre les tiges, les variétés tiges. Hein, et donc, ça va de croissance très rapide, très poussant, à quelque chose de très lent. Ici, cette variété, c'est Bésie de Plohermel. Là, c'est Roche. Derrière, là-bas, on a Riant, hein, qui est la variété la plus poussante. Et là-dessus, nos anciens savaient très bien greffer telle variété sur telle tige. Donc j'essaye de conserver ces assemblages-là, puisqu'ils ont eu l'expérience-là, et je refais les mêmes. C'est-à-dire qu'une variété Nivalis, je vais la mettre d'abord sur Bésie de Plohermel. Une variété Communis, je vais la mettre d'abord sur du Riant. S'il faut que je booste un peu la pousse, je vais le mettre sur le Riant parce qu'il est vraiment très poussant.
Donc finalement, voilà. Chaque variété tige a un effet différent selon la variété fruit qu'on va choisir. Mais c'est un travail titanesque quand même.
Et au niveau sanitaire, c'est la même chose. Donc en fonction des variétés tiges que je vais mettre, je ne vais pas avoir la même résistance ou résilience à certains pathogènes. Et je ne vais pas avoir le même enracinement. Parce que ce que j'ai appris depuis aussi, c'est que les variétés tiges ont une influence sur l'enracinement. Donc la résistance au vent, et nous en Bretagne, on a beaucoup de vent. Donc il faut un ancrage parfait. Quoi. Il y a tout un travail en amont là qui va déterminer le type de poiret que je fais derrière. Parce que le poiret, il ne se fait pas uniquement au chai, il se fait surtout dans le verger. Et donc ce sont les assemblages de variétés, c'est la technique de verger. Nous, on ne fait que du pré-verger, hein, comme mon grand-père et comme mon arrière-grand-père. Donc sur haute tige, levure indigène, dans le champ, on n'a pas les mêmes levures d'une parcelle à l'autre, d'un verger à l'autre. Et c'est tout ça qui va faire le verger, mais qui va faire le poiré. Et le poiré, il doit être pensé bien en amont. Et je ne crois pas aux méthodes qu'on nous vend aujourd'hui, où on fait du bastige intensif bio, et derrière on fait du poiré de qualité. J'y crois pas. On ne m'a pas démontré ça. Donc j'attends la démonstration.
Pour bien comprendre, là on est dans la pépinière, les arbres ont 5 ans, c'est ça?
Oui, ceux-là ont 5 ans, ils font 4 mètres 50.
Déjà?
Ouais.
Et à partir de combien d'années, on va dire, on peut les planter définitivement à leur emplacement dans le verger définitif?
Je plante ces hautes tiges en verger au bout de 5 ans. 5 ans depuis le début, hein, depuis le semis, voilà, l'écussonnage en pépinière. La tige, on l'arrache et on la plante en verger. On la plante vers le mois de novembre-décembre, dès que les feuilles sont tombées. Et on va faire notre greffage en couronne au mois de juin de l'année suivante.
D'accord.
Hein, donc je fais des greffages très tardifs. Je prélève mes greffes au mois de janvier-février. Je les conserve et je fais du greffage le plus tardif possible pour que l'arbre ait eu le temps de s'enraciner, de bien s'ancrer. Avant de lui mettre une greffe, quoi.
D'accord.
Voilà. Et il faut attendre, suivant les variétés, une dizaine d'années avant d'avoir les premiers fruits, quoi. Donc, total, 15 ans.
Voilà. C'est de la patience, quand même.
C'est de la patience. Donc, c'est du vieux millésime, déjà, la première année.
Super. C'est vrai que je ne sais pas si les personnes se rendent vraiment compte de toutes ces,
de toutes ces étapes.
Qu'il faut attendre, toutes les étapes. Et puis, une fois planté, qu'il faut encore attendre. Et finalement, un arbre, ça dure... plus de 100 ans.
Ça dure plus de 100 ans. On a des arbres qui ont 300, 400 ans en Bretagne. Le plus vieux, je pense, il se situe à Dinard. Et je pense qu'il est entre 450 et 500 ans. Ouais. Magnifique, magnifique. Donc il y a plein de vieux solitaires comme ça, qui ont passé les affres du temps, des sécheresses, des gels, des attaques diverses et variées. Et donc c'est pour ça que je les appelle vénérables. Et c'est pour ça que c'est ceux-là que je reproduis.
Du coup, vous êtes un rare breton à faire du poiré, on va dire, avec ces méthodes-là, dans cette philosophie-là?
Non, on est encore... on est quelques-uns. Il y a des nouvelles générations qui s'y intéressent. On a de plus en plus de visites. On a créé une association qui s'appelle Poiré de Bretagne. Et on part dans la même philosophie. Donc, dans la philosophie de faire des vergers, des pré-vergers, hautes tiges, on crée en fait un écosystème naturel. Et le surplus, on le valorise. Et on le valorise bien. Voilà un peu l'éthique de ce que l'on fait dans l'association Poiret de Bretagne.
D'accord.
Donc voilà, et ça intéresse des jeunes.
C'est bien ça que les jeunes s'y mettent.
C'est une bonne boisson en plus, qui devrait encore plus intéresser les jeunes. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent justement commencer à faire du poiret. Peut-être qu'ils ont déjà goûté avant notre produit et qu'ils s'intéressent encore plus une fois qu'ils ont goûté, mais ouais, c'est plutôt intéressant.
Ouais. Toi, personnellement, t'as quel âge ?
22.
22, ouais. Et du coup, tu bois du poiret, t'en amènes à tes collègues et...
Bah voilà, puis moi surtout, j'en ai eu dans le biberon des tout petits, donc, donc du coup, voilà, c'est vrai que ça forme, mais non, c'est depuis tout petit que je souhaite aussi reprendre. Et oui, effectivement, je fais aussi goûter à ma génération qui n'est pas forcément habituée à boire justement du poiret. Un petit peu de cidre, mais généralement, ça plaît pas trop. Je leur fais goûter justement un poiret. Généralement, ils ont déjà goûté un poiret, souvent de mes concurrents. Et l'objectif, c'est justement d'avoir leur avis aussi. Puisque, mine de rien, c'est quand même la future génération. Et c'est ces personnes-là qu'on souhaite viser. Et on a très souvent de bons points positifs sur nos produits. Donc, c'est que ça plaît.
Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, en Angleterre, aux États-Unis, le cidre, hein, c'est, parce qu'il n'y a quasiment pas de poiret. Il y a quand même du péri en Angleterre, mais... c'est surtout le cidre aux États-Unis, ça se développe dans les jeunes générations de façon incroyable. Hein, c'est quand même une boisson, c'est la boisson de demain, le cidre, hein, c'est pas la boisson passée, hein, et le poiret. Et ce sont des boissons qui cochent toutes les cases. Et il y a un avenir certain dans ces métiers-là. Alors plus dans la notion de terroir, de cellier... de fermes, etc. Enfin, je vois aux États-Unis, c'est ce qui marche. C'est pas les grands cidriers industriels. Ce qui marche, ce sont les terroirs. Et les gens vont petit à petit se former au goût, au terroir, comme on le connaît dans le vin en France, quoi.
Finalement, c'est une multiplication de petites productions.
Tout à fait.
Qui chacune vont exprimer un terroir différent.
Tout à fait.
Qui va faire la diversité,
voilà.
Et puis,
voilà.
La richesse.
C'est pour ça que dans notre éthique en Bretagne, c'est ce qu'on a voulu faire. On fédère. Au niveau Bretagne, pour les marques, pour développer l'image du poiret en Bretagne. Mais chacun a son domaine, chacun va avoir sa génétique, ses poiriers, etc. Mais dans la même éthique, éthique bio, éthique pré-verger, etc. Et transformation à la ferme, et valorisation à la ferme. Parce que c'est ça la finalité.
Eh oui, de A à Z.
De A à Z. Ouais.
Il y a une variété que vous chouchoutez davantage ici ?
C'est vrai que... Après études, essais, expériences, etc., on est très intéressé sur les poiriers de type Nivalis. Alors, nos amis normands connaissent le Nivalis, ils en connaissent au moins un, le plan de blanc, ce qu'ils appellent le plan de blanc. Alors, chez nous, en Bretagne, on en a génotypé, des très vieux qui ont 300 ans, mais on est surtout en train de génotyper une gamme, une famille, c'est la famille des Nivalis, dont le plan de blanc fait partie.
D'accord.
C'est un poirier qui est originaire de Syrie, qui est arrivé de la région des Dardanelles, de la ville de Darda. Et on a ce poirier là qui a migré vers la France, hein, vers le centre et l'ouest, et qui s'est installé. On a eu plusieurs créations variétales, plusieurs types de Nivalis, et le plan de blanc fait partie. C'est un Nivalis. Et on s'aperçoit que... on a des arômes fermentaires qu'on ne trouve pas dans le Pyrus communis classique. Quoi. Et on les repère par leur feuillage, on les repère par la forme du fruit, on les repère par le goût du jus. Quoi. Donc à chaque fois qu'on trouve un vieux poirier de type Nivalis, on le greffe tout de suite. Quoi. On essaye de ne pas perdre, parce qu'on en a certainement perdu beaucoup. Alors pour la petite histoire, on est à une douzaine de poiriers Nivalis recensés par l'INRA et génotypés aujourd'hui. Quoi.
D'accord.
Et donc voilà, ils nous intéressent. Pour autant, on ne laisse pas tomber des autres, hein, qui sont les plus communs. Il y a à peu près 20% de Nivalis en Bretagne et puis 80% de type communis. On observe des choses très intéressantes, notamment sur l'acidité. Moi, j'ai trouvé des trucs remarquables en acidité sur le Pyrus communis qu'on est en train de reproduire actuellement. Je pense que c'est toute une gamme, hein. Il faut avoir toute une gamme, c'est ce qui valorise mieux le terroir, et puis on le verra peut-être tout à l'heure dans la cave. De toute façon, on mène nos produits de façon monovariétale, c'est-à-dire qu'on n'assemble pas les fruits, on assemble les poirets avant la mise en bouteille. Il faudra mener ces différents types de variétés indépendamment, et ensuite faire l'assemblage parfait. Quoi.
Ouais, finalement, c'est un petit peu à l'inverse. Sur les cils, il y en a certains... fonctionne comme ça, mais c'est beaucoup plus rare.
Oui.
On voit l'assemblage qui est d'avant, enfin en tout cas qui est fait en amont, alors que là on est vraiment sur un
assemblage. L'assemblage de fruits, est-ce que là on est sur l'assemblage des jus.
On est plus en mode viticole finalement, ce qu'on pourrait retrouver dans les vins.
Complètement, Et là on va pouvoir venir contrebalancer une acidité, une sucrosité, certains arômes qu'on va retrouver que spécifiquement chez certaines variétés qu'on va venir apporter par l'association en fin de fermentation.
C'est ça que vous avez été atteint par le gel cette année, l'année dernière également.
Ouais.
Est-ce que par rapport à ce changement un petit peu climatique, il y a des variétés que vous voyez plus résistantes par rapport à ça, ou alors vraiment elles subissent toutes le même sort?
Sur le site de Plaintel, alors on a différents sites sur l'exploitation, parce qu'on a dû aller à l'extérieur pour j'ai pas voulu délocaliser certaines variétés, donc j'ai acheté des terrains. Certains endroits où j'ai trouvé des variétés. Je vais y revenir tout à l'heure pour faire des poirées de terroir. Et concernant le gel, tout ce que j'ai planté à Plaintel, là, c'est à peu près le même résultat. Ça a gelé à hauteur de 85-90% cette année. Même chose l'année dernière, donc deux années de suite, ça fait beaucoup. De plus en plus, on a des mois de mars qui sont très chauds. Le bourgeon de poirier éclot très vite. Et ensuite, il suffit... là, on a eu deux nuits à moins 4,5. Et là, les fleurs sont tombées. Donc voilà, on va récolter 10-15% d'une récolte normale encore cette année, quoi. Mais pas de différence variétale. Vraiment dans les plus tardives, les très très tardives. Mais l'année précédente, on avait gelé beaucoup plus tard.
Donc il faut avoir les nerfs solides, quoi.
Voilà. Heureusement qu'on a ces quelques vergers qui sont sur la côte. Puisqu'on a des vergers en bord de mer, mais vraiment en front de mer, il y a la mer tout autour du verger.
D'accord.
Donc il y en a un à Erquy qui est sur le cap d'Erquy, donc là forcément ça gèle pas, et l'autre est à Paimpol à l'abbaye de Beauport, et là non plus ça gèle pas, quoi. On est vraiment c'est pas le vent dans les arbres comme on entend là aujourd'hui, c'est les vagues qu'on entend dans le verger, quoi.
Et du coup, il y a une influence selon les terroirs où ils sont implantés. Est-ce que vous ressentez vraiment une différence,
impact? Ah oui, alors tout à fait. J'ai des mêmes variétés implantées sur des vergers différents, même quelquefois sur une commune, mais sur un versant différent, parce qu'on est sur un terroir qui est très vallonné à Plaintel. Eh bien, j'obtiens pas du tout le même jus. C'est ça qui est assez étonnant. Alors forcément, on part sur des sucrosités différentes en fonction du type de sol. Mais à mon avis, l'élément majeur, c'est qu'on ne part pas sur les mêmes levures. Et comme on travaille en levure indigène, exclusivement, donc on laisse les fruits tomber au sol, on ramasse les fruits tous les deux jours, et en ramassant les fruits, on ramasse les levures qui sont... elles se sont installées sur le fruit dans le verger. C'est un peu comme... On peut simuler ça à des punaises qu'on enverrait dans la peau de la poire. Eh bien, on a les levures qui sont enracinées dans l'épiderme de la poire, et c'est celles-là qui vont nous lancer nos fermentations et nous conduire à la fermentation. Donc, d'un verger à l'autre, qui sera sur un versant différent, donc une climatologie un peu différente, pour une même variété, on va obtenir deux poirées différents.
Donc ça, c'est quelque chose que vous développez vraiment, le côté d'implanter plusieurs vergers sur des terroirs spécifiquement recherchés pour tel sol, tel climat, tel...
Ouais, alors pour aller encore plus loin, à l'avenir, c'est pas le cas pour l'instant, puisque on finit par mélanger les jus, en fait, compte tenu de la production que l'on a. Mais à l'avenir, ça va être de faire des poirées de terroir. C'est-à-dire qu'on a des vergers qui sont sur schiste, on a des vergers qui sont sur granit, on a des vergers sur argile, qu'on va développer, qui seront plantés l'hiver prochain. On a des vergers sur grès rose, à Erquy. Et on a des vergers sur grave, à Paimpol. Donc ce sont des galets, en fait. Hein, c'est des galets marins. Hein, on est vraiment sur le trait de côte. Et on plante les vergers sur les galets marins. Et l'objectif, à terme, c'est de faire des poirées plus prestigieux sur des terroirs bien définis, quoi.
Sacré challenge.
Sacré challenge.
Ça donne envie de se projeter dans l'avenir.
Voilà. Mais il faut voir loin. Celui qui travaille le poirier, celui qui travaille la poire, il voit loin. Sinon, il fait autre chose.
C'est une belle phrase pour conclure. On va dans la cave.
Ouais.
Merci.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, c'est pas l'apéro.
Vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis un choc bouteille de poêle après. Alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La poire.
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule des sens.